transfiguration. La transfiguration, si vous voulez, la révélation du Dieu de gloire. Et on va lire les versets 1 à 13, c'est le récit de la transfiguration, vous le connaissez. Et je vais vous donner une couple de commentaires d'introduction et après on va regarder l'essentiel de ce passage. Donc Matthieu 17, verset 1, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean, Jacques. Nous, on ne dit pas dans le bon sens, mais en tout cas. Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Il leva les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui posèrent cette question, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? » Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous le dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc, la transfiguration, juste vous rappeler, dans le dernier message, on avait souligné quelque chose d'important. Vous rappelez, la semaine dernière, c'est le point tournant du ministère de Jésus. Et voici la vérité qu'on avait soulignée. Dieu ne peut pas nous révéler quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'il veut faire, à son œuvre, tant qu'il ne nous a pas révélé quelque chose de nouveau par rapport à qui il est, sa personne. Hein, Jésus a dit, « Qui dites-vous que je suis? » Il a fait le point là-dessus sur qui il est, puis après ça, il s'est mis à parler de la croix et de la résurrection. Donc, on avait un principe là-dedans. Okay? Même chose avec, rappelez, on avait pris l'exemple d'Élie. Élie, que Dieu s'apprêtait à faire des choses dans sa vie. Élie avait vu le feu tomber du ciel. Mais là, Élie, il fallait qu'il apprenne que Dieu, c'était pas tout le temps le feu qui descend du ciel. Hein? C'était pas dans le feu, c'était pas dans le tonnerre. Des fois, c'était un doux murmure léger. Et Dieu se révélait à lui comme ça pour le préparer ce qui venait parce que il l'a envoyé vers, il y avait Azaël, le roi de Syrie, il y avait Jéhu, le roi d'Israël à la place d'Acab, puis il y avait Élisée, qui est la relève, le prophète qui a pris la relève d'Élie. Et donc, on a vu ce principe-là, et juste pour revenir à Élie, Dieu lui demande, il dit, « Que fais-tu? » Tu sais, dans le fameux passage, là, après le feu, un murmure doux et léger, et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, et sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre. Donc cette voix douce qui parle dit, « Que fais-tu ici, Élie? » Et Dieu, dans le fond, voulait le ramener à lui. « Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es ici? C'est quoi ton but dans la vie? » Autrement dit, c'est qui te dit quoi faire? Puis donc, Dieu le ramenait à lui. Il dit, si tu viens à moi, si tu comprends qui je suis, fais-toi pas ce que tu fais, je vais m'en occuper. OK? Maintenant, si on revient, là, j'étais dans un peu une rétrospective par rapport à des choses qu'on a vues la semaine passée, mais si on revient ici à Matthieu 17, on a lu le passage, puis on a commencé au verset 1, mais juste le verset avant, dans 16-28, ça dit, Jésus disait, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ça? Ici, quand il parle des quelques-uns, ben, c'est nos 3 acolytes, Pierre, Jean, Jacques. Et ça dit qu'il allait le voir, hein, venir dans son règne, donc en tant que roi. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Puis pourquoi ces 3-là en particulier? Ben, la réponse détaillée va être dans le message en somme, là, mais si je résume, pourquoi Jésus disait ça, pourquoi il y avait ces 3-là en particulier, Parce que Dieu allait leur révéler quelque chose sur lui-même pour les préparer à quelque chose de spécial qu'il allait faire. Et Dieu leur révélait qui il était pour les préparer à ce qu'il allait faire. Évidemment, la croix, la résurrection et tout ce qui allait s'en suivre. Et ces gens-là avaient un rôle important dans l'Église qui allait naître. Et donc, le roi se montrait à ceux qui allaient désigner dans des rôles spéciaux. Et ces trois hommes, avec ces rôles, qui étaient vraiment des rôles clés, avaient besoin d'une préparation spéciale. Et donc, cette préparation était dans une révélation spéciale de qui il est. Donc, Dieu s'est révélé, il a comme enlevé un peu le voile de son humanité pendant un bout de temps pour montrer sa gloire d'une façon beaucoup plus grande. OK? Et donc, c'est pour ça qu'en gros, il y avait la transfiguration. Dieu les préparait. Puis je pense aussi que ça les a préparés. Vous savez, avant que le Saint-Esprit descende sur l'Église, il était dans la chambre, dans Acte 1, à prier, à attendre. Parce qu'il savait qu'un Dieu de gloire comme ça, pour qu'il fasse les choses comme il voulait, il fallait que Dieu se pointe. Là, il savait que Jésus était monté. Et donc, tout ça, ça les préparait à comment Dieu fonctionne. Ce Dieu-là, comment il est, il fonctionne de cette façon-là, voyez-vous? Il préparait ces trois qui avaient un rôle de leadership spécial dans l'Église à fonctionner à la manière que lui fonctionne. Et dans le fond, il se révélait afin de les transformer pour être prêt à ce que lui voulait faire, à penser selon ses voies, selon ses œuvres. Et c'est vraiment ce qu'il voulait faire avec Pierre, Jean et Jacques. C'est pourquoi je pense que dans nos vies, puis même on regarde 2020-2021, n'est-ce pas merveilleux que Dieu nous transforme pour qu'on ait une meilleure appréciation de ce qu'il est? Puis je pense parce que Dieu aussi veut faire des choses spéciales. Dieu, dans ces derniers temps, veut faire des choses spéciales pour lesquelles il nous prépare. Donc, avec ça maintenant dit, j'aimerais qu'on regarde trois façons de penser en réponse à la révélation du Dieu de gloire. Parce que si Dieu s'est révélé comme étant le Dieu de gloire, mais il y a trois façons de penser. Dans les versets 1 à 4, on les a lus, la façon de penser humaine. Notre beau Pierre encore, je l'aime donc Pierre. Ben lui, il fait une tente. C'est ce qu'il connaissait. Puis il dit, les pauvres gars, Moïse puis Élie, il veut dire, on ne va pas être là, rester assis comme des piquettes. On veut lui faire une tente. Tu sais, c'est une idée comme un autre. Peut-être qu'il y avait un petit siège dans la tente, je ne sais pas trop. Mais Pierre a décidé de faire une tente. Et des tentes. Je sais pas comment il avait amené ça dans son kit, par exemple. Pas s'il a pogné des branches à quelque part, en tout cas. Mais lui, c'était sa business. Non, c'était Pierre, Paul qui faisait des tentes. En tout cas. Non, mais tu sais, si vous restez ici, je vais dresser des tentes. Le mec allait faire ça, je sais pas, là. Il allait gosser ça dans le bois, là. En tout cas. Mais voici l'important. Je vais arrêter de faire le fanfaron, là. Qu'est-ce qui se passait ici? C'est quoi la signification de ce que Pierre faisait? Ben, d'abord, je pense qu'il y a des affaires qui se passaient là qu'ils n'ont compris que plus tard. Parce qu'on le voit, c'est clair, là, ils n'ont pas tout compris là, ce qui se passait là. Okay? Ils ont compris par le temps, mais aussi par le Saint-Esprit qui leur a révélé, qui les a dirigés de plus en plus dans la vérité, avec les choses qui avançaient. Puis Pierre, cet homme-là qui a construit, qui voulait ici faire des tentes, il nous donne une explication inspirée de cette expérience dans 2 Pierre au chapitre 1. Écoutez ce que ça dit. Ça dit « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme l'ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » OK? Puis là, ça réfère à ça parce qu'il va dire « Car il a reçu du Père l'honneur et la gloire, car la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu la voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Donc ici, dans 2 Pierre chapitre 1, Pierre réfère à l'expérience de la transfiguration. Et c'est quoi qui l'a marqué? Ils ont vu la gloire, puis ils ont entendu la voix du Père qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc la transfiguration, c'était le sceau de l'approbation divine sur la personne de Jésus-Christ. « C'est bien !» Mon fils, mon bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. OK? Et donc, c'est un moment glorieux, c'est un moment unique. OK? Puis là, il voyait Jésus dans toute sa splendeur. Puis, tu veux dire, la loi et les prophètes, Moïse et Élie, tu sais, c'était tout qu'un moment. Et donc, je pense qu'à la lumière de ça, la pensée humaine, comment qu'elle pense là-dedans, je pense que ce qu'on voit avec cette idée de faire des tentes, je pense que il aurait bien voulu faire durer le moment. OK? N'est-ce pas quelque chose qu'on aime lorsque ça va bien, les moments de gloire, on veut qu'ils durent et qu'ils perdurent, n'est-ce pas? On voudrait qu'à toute fois qu'on vient à l'église, c'est le septième ciel. On voudrait que, tu sais, on veut que ça dure. Ben, je pense que c'était ça un peu l'idée. Hey, c'est vraiment beau, là, les gars, restez là, là. On va m'arranger pour que ça puisse continuer encore. Tu sais, ils préparaient le pique-nique, dans le fond, là. Quelque chose, comprenez-vous, même un petit peu plus long, parce que une tente, hein. Hey, prenez vos aises, les gars, là. OK? Moi, je pense que c'est vraiment ça, ici, la pensée qu'il y avait. Et vous savez, on est dans un pèlerinage, ici-bas. OK? On est de passage. Et il n'y a rien de mauvais. Dieu nous donne des bonnes expériences et on s'attache à ça, comme les bons moments justement qu'il nous donne à l'église et tout ça. Et Dieu lui-même, hein, c'est lui qui nous les donne. Et je veux dire, il y a quelque chose en nous qui aspire après ça. C'est des moments de gloire, de sa présence. C'est comme le psaume 27, verset 4, il dit « Je demande une chose que je désire ardemment, c'est de contempler la je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Autrement dit, il aurait voulu lui aussi rester tout le temps dans le temple de l'Éternel. Voyez-vous, c'est cette idée-là, hey, les moments de gloire, puis beau demain, je veux ça longtemps, puis que ça dure. OK? Comme j'ai dit, il n'y a rien de mauvais à ça, mais il y a quelque chose en dedans de nous qui est fait pour ça, qui est conçu pour ça. On aspire après la gloire de Dieu, après le Dieu de gloire. OK? Bon. Maintenant, ce moment glorieux ici où Dieu se révèle comme étant le Dieu de gloire est très important, vital. Faut pas l'oublier. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'était temporaire parce que c'était pour préparer à la souffrance qui s'en venait. Et on n'était pas à la croix encore, puis il ne pouvait pas rester dans la gloire tout le temps, même parce qu'il y avait une croix qui s'en venait, une croix qui était inévitable, une croix qu'il fallait que Jésus porte. Donc la gloire n'était pas... Dans notre pensée humaine, on voudrait qu'ici-bas sur terre, ça soit tout le temps la gloire, tout le temps la félicité, mais ce n'est pas le lot d'humains sur la terre. On est dans un monde déchu, détruit par le péché. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Les moments de gloire sont suivis par des moments de souffrance. Puis regardez bien ici, il y a eu la gloire là, il y a eu la souffrance de la croix. Ensuite, suivi de la gloire de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur l'Église. Puis la souffrance des serviteurs de Jésus-Christ. Hein, dans le livre des Actes, on les voit persécutés, chassés. Mais aussi, tout ça parsemé de moments de gloire, où est-ce que des milliers venaient au Seigneur, puis il y avait un amour du Seigneur qui avait... Voyez-vous, il y a un cycle... Souffrance, gloire, souffrance, gloire, souffrance, gloire. Et le danger, c'est de refuser la souffrance parce qu'on veut seulement la gloire. Mais c'est pas à nous de décider ça. Et c'est normal de vouloir la gloire. Mais il faut accepter la souffrance aussi. Parce qu'il ne peut pas avoir de gloire sans souffrance, mais gloire à Dieu. Il n'y a pas de souffrance sans qu'aussi il y ait la gloire à un moment donné. Les deux vont ensemble. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, c'est glorieux ça. Mais ils vont être persécutés, ils vont avoir la souffrance. OK? Puis Paul, dans Philippiens 3, 10, il nous dit « Ainsi je connaîtrai Christ, c'est la puissance de sa résurrection. » C'est glorieux ça. Mais aussi la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour y parvenir. Donc, il y a tout le temps les deux. La gloire et la souffrance. Maintenant, dans le chapitre 16, la semaine passée, on a vu Pierre qui est allé reprendre Jésus. Hein? Puis il a dit, « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, retournant vers Pierre, lui dit, « Arrière de moi, Satan, car tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Donc, si on veut juste la gloire, puis on ne veut pas la souffrance, puis on reste là-dedans, là, non seulement c'est la pensée des hommes, mais à un moment donné, ça devient la pensée de Satan. Parce que, je veux dire, la pensée humaine, c'est normal, OK, on veut la gloire, mais si on refuse la souffrance, ça nous amène à marcher dans les voies de Satan et non pas dans les voies de Dieu. Et vous savez, dans le plan là, de Dieu, là, c'était prophétisé dans Ésaïe, Ésaïe 53, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Dieu, c'était son plan de briser, que le Fils soit brisé pour nos péchés, qu'il soit, lui, frappé pour nous autres. Ça faisait partie du plan. Est-ce que la gloire s'en est suivie? Absolument. Mais la souffrance, ça devait passer par la souffrance. Et savez-vous quoi? On a un principe là-dedans. Parce que Dieu brise par la souffrance, il peut rebâtir meilleur pour sa gloire. Donc, on n'ait pas peur de la souffrance. Parce que c'est comme ça que Dieu se glorifie, il fait quelque chose de meilleur. Dieu ne brise que pour faire mieux. Et ça, ça doit nous motiver dans la souffrance. Oui, on souffre, mais parce que Dieu veut faire de quoi? De meilleur. Et savez-vous, je pense que c'est ce que Dieu est exactement en train de faire en ce moment. Par la souffrance, il nous amène une délivrance spirituelle pour sa gloire. Oui, il nous brise. Il brise notre volonté, il brise nos forteresses, nos pensées, nos sentiments, notre attachement aux choses d'ici-bas. Pourquoi? Parce qu'il veut faire quelque chose de mieux. Il veut se glorifier. Pensez à ça, quand Dieu brise notre volonté, c'est parce qu'il veut nous amener à faire la sienne. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis vendu. J'aime mieux faire la sienne. J'aimes-tu ça quand il brise ma volonté? Non. Mais c'est mieux parce qu'il fait quelque chose de meilleur. Ça m'amène à la deuxième pensée dans notre texte. Non seulement la pensée humaine, qu'on voit dans les versets 1 à 4, mais dans les versets 5 à 9, on va les voir un par un, là, mais on a la pensée divine. Et la transfiguration, vous savez, c'est pas tant pour prouver la divinité de Jésus, oui, il y a ça, mais aussi pour montrer sa parfaite humanité. Lui, humain, était glorieux. Parce que le roi parfait, déjà, il est présenté, hein, le roi d'Israël qui est présenté dans Matthieu, a présenté son royaume, les lois de son royaume dans le sermon sur la montagne, sa personne, hein, dans ses discours, comment il présente comme il est, ses œuvres, par les miracles qu'il fait. Donc, on le voit dans tout ça. Et selon la vérité qu'on a soulignée dans les derniers messages, puis même au début de celui-ci, il voulait ici montrer la perfection de sa personne. Pourquoi? Parce qu'il voulait les préparer à ce qui s'en venait, mais il voulait leur montrer non seulement qu'il était innocent et sans péché, mais qu'il était saint, qu'il pouvait vaincre sur le péché, que oui, ce monde était lugubre et l'heure des ténèbres s'en venait, mais il était quand même le Dieu de gloire. Il pouvait être resplendissant de gloire. Il voulait les garder les yeux sur le fait que il avait tout ce contrôle, là, puis c'est pas comme s'il allait être envahi par les ténèbres. Non, il était un Dieu qui, de lui-même, il est lumière, il pouvait vaincre les ténèbres. Donc, il les ramenait à ce point tellement important. Et maintenant, la pensée divine est communiquée ici à ses chers disciples. Et regardez comment il se révèle à eux comme ça, comme étant le Dieu de gloire. D'abord, ça nous dit dans le verset 5, regardez, ça dit au verset 5, « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre dessus ses paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Ça, c'est le Père qui parle. La parole de Dieu qui interrompt celle des hommes. Les beaux plans de Pierre, là, ça a comme boum, tu sais, le tonnerre l'a arrêté. Je veux dire, même s'il avait continué de parler, il aurait pu y voir aller à la bouche, là, mais il n'y avait plus de Pierre, là. Je veux dire, là, c'était Dieu qui parlait. Et je vois, c'est quelque chose de bon, ça. Arrêtez et sachez que je suis l'Éternel. Je domine sur les nations. Et donc, c'est bon quand Dieu nous interrompt et qu'il nous arrête de parler, c'est parce qu'il veut qu'on l'écoute. Et donc, encore une fois, on voit l'importance de connaître Dieu. Ici, Dieu voulait se faire connaître. Puis, il voulait faire connaître son Fils. Donc, Dieu le Père révèle le Fils, puis il dit, « C'est lui, mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Et ça, c'est le Père qui parle. Maintenant, le Fils qui parle, il dit, « Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, verset 7, s'approchant, les toucha et leur dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. Levez-vous, n'ayez pas peur. » Le Fils leur parle pour les réconforter, eux qui avaient peur. Et ils avaient besoin d'être amenés. Ils pouvaient être saisis d'avoir toutes sortes de craintes. Mais Jésus les ramène à la simple foi, à la confiance, faites-vous-en pas. Je suis là avec vous. Il les a touchés, puis il leur a dit, n'ayez pas peur. Et cette peur qu'ils avaient en entendant, c'était probablement un tonnerre, ça devait être quelque chose, tu sais, je veux dire, c'était pas des feluettes, là, pour qu'ils aient peur, ça devait être assez impressionnant. Jésus, le Fils, ici, s'adresse à eux par sa présence réconfortante, mais j'aime, ça dit, il les a touchés. Il les a touchés. La touche de Jésus donne courage. Et on sait, même humainement, hein, pour ça que moi, je pense, tu sais, c'est important, bon, il y en a qui sont plus touchés que d'autres, là, il y en a qui sont plus colleux, puis tout ça, puis... Mais pensez-y, là, je ne sais pas si vous savez, mais il y a même des expériences qui ont été faites avec des enfants qui sont élevés, puis que, tu sais, des fois, des orphelinats, des contextes comme ça, qui ont pas, qui sont pas, ils deviennent malades, ils développent des sérieux problèmes graves. L'humain, on est fait le toucher pour se faire coller, puis tout ça, puis je veux dire, Dieu nous a fait de même. Puis ça, c'est vrai au sens physique, littéral, mais aussi que Dieu touche notre vie, qu'on ait un sens que Dieu est vrai dans notre vie, qu'il vient nous toucher. Que dire, pas juste vague et lointain, mais vraiment qui vient toucher notre vie. Il y a un réconfort là-dedans qui enlève toute la peur. Je ne sais pas si ça vous est arrivé dernièrement ou dans les derniers mois, dernière année, mais il n'y a rien de plus précieux que ça quand Dieu vient nous toucher comme ça. Ou est-ce que là, on sait, waouh, OK, Dieu nous réconforte, dit, je suis avec toi, je ne t'abandonne pas, je ne te délaisse pas. Non seulement il les touche, mais il dit, levez-vous. Il n'était pas prêt à se lever tant qu'il n'y avait pas le sens que c'était Dieu, le Fils, qui est avec eux autres. Quand on est réconforté comme ça, quand on a un sens de la présence de Dieu dans notre vie, on est prêt à se lever et à faire ce qu'il nous appelle à faire. Et ils se sont rendus bien compte que là, il n'y avait plus rien. Ils se levèrent, ils levèrent les yeux, verset 8, et ils ne virent que Jésus seul. Il n'y avait plus ces deux grands héros. Pour moi, ils vont vouloir aller lui poser des questions aussi. « Hey Moïse, peux-tu nous dire, il est caché où ton corps? » Élie, tu sais, comment ça a été de monter de même dans le chariot, là? Mais il était tout parti, il y avait Jésus seul. Il avait entendu la voix, il avait vu deux héros, il avait entendu la voix du Père. Et pourquoi il y avait Jésus seul, mais c'était bien suffisant. Que Dieu nous apprenne que Jésus seul, c'est bien suffisant. On a tendance, des fois, on veut Jésus plus. Jésus plus ci, Jésus plus ça, Jésus seul, c'est bien suffisant. Et au verset 9, Jésus leur parle, comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Ici, il dit « Parlez pas jusqu'à. » Et lorsque le Fils de l'homme a été ressuscité des morts, la rédemption était accomplie, et là, c'était l'heure du Saint-Esprit qui s'amenait déjà. Jésus a soufflé le Saint-Esprit pour qu'il comprenne les Écritures avant son ascension. Une fois qu'il est monté, il est descendu sur l'Église. Et donc, on a le Père, le Fils, et ici une référence indirecte au moment où est-ce que le Saint-Esprit va descendre sur l'Église jusqu'à... Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous conduit dans toute la vérité. Ou si vous voulez, il nous redirige dans la bonne voie. On a tendance à s'égarer. Et lui, il nous ramène. On a tendance à scraper les choses, à les envenimer. Lui, il restaure. Et c'est ça que ça veut dire marcher par l'Esprit. C'est marcher selon sa direction, comment lui nous guide. Et vous savez, les disciples ici, les trois, je pense pas qu'ils étaient prêts encore à parler des choses de toute façon. Ils étaient un petit peu trop mêlés. Je pense que si eux avaient parlé, ils auraient mêlé toute la gang. Vous savez, des fois, c'est mieux qu'on se taise que de dire n'importe quoi. Puis, il vaut mieux dire quelques paroles enseignées de Dieu qu'en dire 20 000 dans la sagesse des hommes. Amen. Il y avait une bonne leçon là-dedans. Ça m'amène à la troisième façon de penser. Il y avait la façon de penser humaine, il y avait la façon de penser divine. Il y avait la prophétique. Regardez les versets 10 à 13. Les disciples lui posèrent cette question. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? » Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose. Mais je vous le dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. C'est une façon quand même assez intéressante de terminer le message parce que après avoir vu Élie ici, il y avait Élie puis Moïse, mais il se posait des questions sur Élie. Verset 3, ils l'ont vu. Savez-vous que c'était la question de tous les Juifs qui connaissaient les Écritures? Pourquoi? C'est la dernière parole de l'Ancien Testament. Dans Malachie, là, ça finit avec la promesse d'Élie qui va... Je vous cite... Attendez un peu. Je vous cite cette parole. C'est dans Malachie 4, versets 5 et 6. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète. » Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur qu'ils ne viennent frapper le pays d'interdit. Fin de l'Ancien Testament. Il faut bien se poser des questions. C'est quoi cette affaire-là d'Élie? Tu sais, il y a eu 400 ans de silence, puis c'était ça la dernière parole qu'ils ont eu de la part de l'Éternel. Fait que c'était la question brûlante sur les lèvres de tout juif qui avait été instruit comme ça dans les Écritures. Il savait qu'Élie n'était pas mort comme les autres. Il était monté au ciel direct. Puis il savait qu'il y avait cette prophétie qui n'était pas accomplie encore. Mais il ne comprenait pas comment tout ça, ça se traduisait pour eux autres. Alors, on l'a vu là. Puis là, c'était normal d'avoir de la confusion. Là. Il n'y avait pas encore tout compris. Mais Jésus clarifie qu'Élie est déjà venu dans la personne de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que ça nous dit dans Luc 1, 17, il marchera en parlant de Jean-Baptiste. Ici, c'est une parole prophétique sur lui avant qu'il naisse. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Puis là, ça dit justement la fameuse prophétie de Malachie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et des rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, puis Jésus aussi, ça dit, ils ont compris qu'il parlait de Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste a accompli cette prophétie. C'est lui, l'Élie, qui devait venir. Parce qu'il est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie. Pas pour ça, moi, juste petite parenthèse là-dessus, gratuite, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais je pense que dans les deux témoins qu'il y a dans l'Apocalypse, je pense qu'Élie aussi est là. Bon. Moi, je suis d'accord avec moi-même. Si vous n'êtes pas d'accord, vous viendrez m'en discuter. OK? C'est ça. Qu'est-ce que je dis avec ça? Donc, oui, c'est lui, Jean-Baptiste, qui a accompli cette prophétie-là. Mais la fin du verset 12, ça dit « De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » C'est le monde qui avait plus à cette prophétie que juste « Boum, c'est fini avec Jean-Baptiste, puis c'est fini, puis ramener les cœurs des pères. » Jean-Baptiste ne faisait que commencer ce que Christ a terminé. Donc là, ici, la pensée prophétique, là, savez-vous quoi? Comme tout le reste d'Écriture, ça nous ramène tout le temps à Jésus-Christ. Le personnage principal ici, là, puis dans Malachie, là, c'est pas Jean-Baptiste, puis c'est pas Élie non plus, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est qui a ramené les cœurs? Puis ça, c'est vraiment Jésus-Christ qui avait ça. L'autre, il annonçait, puis il préparait un peuple bien disposé. Mais c'est qui a fait, qui a créé un peuple bien disposé? C'est Jésus-Christ, par son œuvre de rédemption. Et donc, très important, les Écritures, la pensée prophétique, quand on comprend bien l'esprit des prophètes, il nous parle tout le temps, nous ramène tout le temps à Jésus-Christ, qui est la clé, l'accomplissement de toutes les Écritures. Donc, la transfiguration, la révélation du Dieu de gloire, c'est la révélation de ce Dieu qui était venu dans cette mission de restauration. Et ici, il y a quelque chose d'important. On parle de souffrance, mais on dit qu'il les prépare. Dans le fond, Jésus leur dit, n'oubliez pas qui je suis. N'oubliez pas dans quelle mission je suis venu. Oui, la croix s'en vient. Oui, ça va être dur. Mais là, ce que je vous montre sur moi, je suis ce Dieu de gloire, puis je viens dans cette mission de ramener, de restaurer. Il avait besoin de ça. Ils ont passé par des moments difficiles. Là. C'était pas fini pour eux. Là. Ils en ont eu de la houle là, sur la mer, nos trois matelots. Là. Mais Dieu les préparait. Et quand ça dit au verset 13, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Je veux terminer avec cette pensée-là. Puis, en tout respect pour Jean-Baptiste, là, mais c'était pas ça le plus important à comprendre pour eux autres. Mais c'était plutôt que Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus-Christ. C'est lui qui est le Rédempteur. C'est lui qui allait accomplir, comme je disais, la mission qui était prophétisée dans Malachie. Et ça veut nous dire que la transfiguration puis le Dieu de gloire se révèle à nous. C'est pas un simple exercice académique. C'est pas une simple compréhension théologique. Mais il y a un but rédempteur. Dieu est le Dieu qui restaure, le Dieu qui ramène, le Dieu qui prend ce qui est brisé, puis il en refait du neuf. Il en refait du meilleur. Et ici, quand il se rappelait de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était passé. C'était fini l'histoire de Jean-Baptiste. Mais l'histoire de la rédemption était en train de s'accomplir. Puis était loin d'être finie. Elle était sur le point d'être sur son point culminant. Dieu allait accomplir tout ce qui était écrit dans les Écritures. Et encore mieux, il allait les rendre participants de ça. Donc, ce Dieu de gloire qui se révéla à eux dans sa gloire, il les amenait aussi à participer à ça. Oui, avec la souffrance, mais aussi avec la gloire. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de toujours se rappeler l'essentiel, la base. Qui est notre Dieu, puis qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il ne faut pas se laisser distraire par les Jean-Baptiste, par les... Tu sais, puis des fois, on peut avoir les yeux sur la mauvaise chose, puis essayer de tout comprendre. Non, il faut comprendre l'essentiel. Dieu est le Dieu de gloire qui se révèle à nous, puis il veut simplement qu'on y fasse confiance. Et Jésus-Christ, c'est lui le plus important, c'est lui qui est notre tout en tous, selon Colossiens 3:11. Et donc, c'est sur lui qu'on doit garder les yeux. Merci Seigneur qu'il utilise toutes sortes de personnes dans son œuvre. Il utilise des Jean-Baptiste, il utilise des Élie, il utilise des Moïse. On pourrait faire le tour de l'Église ici. Mais ça, c'est juste des instruments, c'est des secondaires. Le plus important, c'est celui qui opère, qui énergise, par la puissance qui agit avec une grande efficacité en nous. Et ça, c'est Dieu le Saint-Esprit, envoyé par Dieu le Fils, qui lui-même est envoyé par Dieu le Père. Amen. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a pu prendre à considérer le bout où est-ce que tu as enlevé un peu le voile devant ces trois disciples qui avaient un rôle spécial et tu les préparais, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu nous montres que tu te révélais à eux avec un but. Tu leur montrais ta gloire pour les préparer à la souffrance. Mais aussi, cette souffrance les préparait pour la gloire qu'elle allait suivre. Et Seigneur, c'est jamais fini tant qu'on est ici sur terre. Alors, lorsqu'on vit la souffrance, qu'on voit que ce n'est pas une fin, que la gloire va s'en suivre, que ce soit ici-bas sur terre ou plus tard au ciel, mais aussi qu'on se rappelle sobrement qu'il y a des moments de gloire, des moments d'exaltation que tu permets dans nos vies, mais qu'eux aussi, à cause que ce monde est déchu, à cause qu'il est brisé par le péché, ils vont connaître une fin aussi. Mais Seigneur, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de te connaître toi, le Dieu de gloire, qui est tout puissant, qui fait toutes choses bonnes en son temps. Et Seigneur, on l'a vu ce matin avec Josué, notre confiance, elle est en toi. Pas dans ce qu'on pense de ce que tu fais, puis la sagesse qu'on pourrait avoir à penser que c'est bien ou c'est pas bien, ça devrait être comme ça, mais notre confiance, elle est totalement en toi. Seigneur, on veut marcher dans cette victoire de la foi. Et merci, Seigneur, que tu nous prends par la main, tu es patient, tu es bon avec nous. On te remercie, Seigneur. On loue ton grand nom, celui de Jésus dans lequel on prie toutes ces choses. Amen. Amen.